Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, dans votre émission de conte, vous entendrez deux récits écrits par le Cercle des conteurs du Briançonnais, tirés du livre Les sabots de Vénus, pour une histoire de violence qui parlera plutôt aux adultes, avant de s'aventurer au Canada. Mais je n'en dis pas plus. Bonne écoute.
Anselme et les eaux chaudes de Plainte-Fasie. Anselme était un petit garçon qui vivait avec ses parents dans un hameau des Hautes-Alpes, du côté des Gliers, non loin de la Durance. Il y a bien longtemps de cela, et Anselme n'allait pas à l'école, parce que l'école n'existait pas encore. C'était un garçon vigoureux, mais il avait un problème. Oh, pas grave. Simplement, sa peau, quelquefois, devenait toute rouge, avec des petites cloques, et ça le démangeait. Alors il se grattait, et sa peau devenait encore plus rouge, il s'écorchait, et rien ne le soulageait. Même pas les onguents de la guérisseuse de Guillestre, que sa mère l'avait emmené voir en cachette. Dans ce hameau des Gliers, tous cultivaient la terre, et sans être riche, personne n'était pauvre. Chacun possédait quelques arpents de terre et quelques animaux domestiques. Chaque été, les vaches partaient en estive dans la montagne. Aussi, tous les foyers gardaient à la maison une chèvre pour le lait du petit-déjeuner des enfants. Et on s'était organisé. Tous les matins, les chèvres étaient rassemblées en un seul troupeau. Chaque famille, à tour de rôle, fournissait un petit berger qui emmenait le troupeau paître sur les communaux ou dans quelques parcelles boisées. Ce jour-là, c'est Anselme qui doit garder le troupeau. Il décide d'emmener les biquettes brouter les sols dans le lit de la Durance, très large à cet endroit. Très vite, les animaux s'égayent à droite et à gauche. Anselme décide d'aller explorer les environs à la recherche de quelques nids d'oiseaux ou peut-être... L'eau de la Durance à cette période de l'année est d'un beau vert émeraude à cause de la fonte des neiges. Anselme traverse la rivière par le pont en bois et se faufile de buisson en buisson, furtif, l'oreille aux aguets. Et il sait que là-bas, il y a un monstre. Oui, un monstre. Un monstre énorme, tapis au pied de la montagne. Immobile, de couleur claire, son museau très laid dépasse au-dessus du sol. Au bout du museau, l'eau coule en cascade comme une fontaine dans une grande vasque. Il l'a bien observé l'année dernière quand il l'a vu pour la première fois. Il a eu très peur. Il s'est sauvé en courant, mais il est tombé dans un trou d'eau au milieu des roseaux. Un canard effrayé s'est envolé en criant. Anselme, terrifié, n'a pas demandé son reste, et il s'est enfui. Il s'agit aujourd'hui d'approcher le monstre sans faire de bruit et de l'observer.
Ça y est, il est là!
Tout à coup, il entend des voix et des rires. Il s'approche sans faire de bruit, et il aperçoit trois jeunes filles en train de se baigner dans la vasque, juste sous le museau infâme du monstre, qui n'a pas l'air de bouger. Elles ont retiré leurs vêtements, leur peau brille dans le soleil. Elles sont d'une beauté extraordinaire. Anselme les regarde, sidérée, jouer à s'éclabousser et rire tout en poussant de petits cris. Le garçon aperçoit alors dans l'herbe, à quelques pas de lui, trois petits tas de vêtements, et sur chaque tas, une paire d'ailes en cristal brillant sous le soleil. Des fées! Ce sont des fées! Fasciné, Anselme rampe jusqu'au tas le plus près de lui, s'empare des ailes qui sont là, et, chut, disparaît dans les buissons. Gagné! Il a réussi. Il a un trésor. Des ailes de fée. Il retourne vers le troupeau de biquettes, les rassemble, rentre au village et va cacher son trésor. Personne ne doit savoir. Et la vie reprend son cours. Un jour, Anselme va couper quelques branches de frêne pour les lapins, en contrebas du hameau de Barbin. Là, un ruisseau jaillit du coteau. Les frênes y sont vigoureux. Il entend des gémissements et des sanglots. Il s'approche et découvre une jeune fille en pleurs. Anselme est ému, d'autant que la jeune fille est si jolie. « Pourquoi tu pleures ? Tu es jolie ? Pas comme moi, regarde. Mes bras sont en sang à force de me gratter. Je souffre, surtout mon corps. Les filles se moquent de moi. Elles disent même que je suis scrofuleux. Et personne ne peut rien pour moi. Je serai comme ça toute ma vie. Et aucune fille ne voudra m'aimer. Personne ? Rien ? Ah ! C'est sûr, si j'avais mes ailes, murmure la jolie fille, je pourrais t'aider. Mais on me les a volées. Et sans mes ailes, c'est pour ça que je pleure. Tu es une fée ? Tu pourrais faire quelque chose pour moi ? Oui, mais sans mes ailes. Je pourrais peut-être t'aider. Si tu promets que tu peux me guérir, je chercherai et je te les rapporterai. Reviens ici, après deux nuits écoulées, quand le soleil sera juste au-dessus de cette montagne. Le garçon ramasse ses branches de frêne et disparaît sur le sentier. Après deux nuits écoulées, il revient, portant la paire d'ailes dans ses bras. La fée est bien là, à l'attendre. « Tu as promis, tu me guériras. Promets encore une fois. Après, je te donnerai tes ailes. » « Je te le promets, » répond la jeune fille, vexée. « Mais sache qu'une fée ne ment jamais. » Anselme rend les ailes, la fée les replace sur ses épaules et sort de son corsage sa baguette magique. Elle la plonge dans le ruisseau. « Désormais, dit-elle, cette eau te soulagera jusqu'à ce que tu guérisses. Vas-y, tu peux te baigner. » « Allonge-toi tout nu dans le ruisseau. » « Tout nu ? Devant une fille ? Anselme hésite. « Mais bon, et si c'est une fée ?» Il retire prestement ses vêtements et il plonge. Mais l'eau est glacée et il en ressort aussi vite que ce qu'il y était entré. « Ah ! Elle est glacée » s'écrie-t-il en suffoquant. « Bon, ça va, » dit la fée. « Tu fais bien des manières pour un garçon. Je vais te la réchauffer. » Et c'est pourquoi, depuis ce jour, l'eau de plan de Phasie jaillit, été comme hiver, à une température de 26 degrés. Et surtout, elle guérit les maladies de peau.
L'expert comptable et l'écureuil. André Dupont était expert comptable à la banque Burnout & Co. Il passait sa vie à sauter d'un avion dans un autre pour traverser des pays dont il ne voyait, entre deux hamburgers, que les résultats comptables des entreprises. Il avait compris depuis longtemps deux des fondements de son job. Plus on vendait de choses fictives et futiles, plus ça marchait, plus on dressait des remparts de lois, réglementations, procédures, plus l'intelligence et le bon sens étaient absents des relations humaines, et plus on pouvait manipuler ses clients. Par exemple, vendre des graines de baobab à des Inuits du Grand Nord ou des pistes de ski à des richissimes de l'Arabie Saoudite. Mais par moments, il était là de tout ce cirque, de tout ce fatras qui puait plus que les pires fosses d'aisance. Ce jour-là, André Dupont fait une randonnée sur la côte d'Azur, près de Saint-Égulf. Le soir, il est si fatigué qu'il se couche sous un pin parasol et tombe dans un sommeil insondable. Le lendemain matin, frais et dispo, il se surprend à lancer à la cime du pin parasol « Salut l'écureuil !»« Salut Dédé !» répond l'acrobate du ciel. Il y avait si longtemps qu'on ne l'avait plus appelé Dédé. Pensez-vous, un expert comptable international de la plus haute volée. André n'en revient pas. À travers toutes les équations et les algorithmes de son ordinateur, il n'avait jamais croisé un écureuil qui parle. « Comment vas-tu, ami ? Tu sais, les seuls écureuils que je connaisse sont ceux de la caisse d'épargne. »« Justement, Dédé, tous mes amis de la forêt et moi sommes d'accord. Tu vas très mal. La vie t'a presque totalement déserté. Voici la méthode que je te propose pour revenir à la joie qu'avait connue le petit Dédé. D'abord, transformer ta comptabilité sophistiquée en une comptabilité du non-profit. Puis, changer tes comptes en comptes. Dès son retour, il a tout quitté pour retrouver le calme des matins bleus et le mystère des sentiers au crépuscule. Sur son bonnet de randonneur, il a fait broder un écureuil pour ne jamais, jamais oublier cette rencontre inespérée.
La goutte de miel. Au pied de la montagne était un petit village qu'on appelait Ashtarak. Ses habitants vivaient heureux. Tous avaient oublié le temps difficile des dernières inondations, à commencer par l'épicier de ce village dont les affaires marchaient plutôt bien. Et pour cause, il tenait l'unique épicerie du pays. On y trouvait ce qu'il fallait pour le repas de la famille et le logis, des ustensiles en tout genre, de la farine et du tabac, du thé, des œufs et même le chat de cet épicier dormant sous les étalages. Mais si on franchissait la poutre de ce seuil, c'était surtout pour acheter du miel de Djermouk, le meilleur miel qui soit. Un matin d'avril, donc, un berger de Tzarkachen, le village voisin, son bâton de marche et son chien entrent dans la boutique pour y trouver de ce breuvage. « Je ne connais rien de meilleur, dit-il, qu'un peu de ce miel déversé sur un morceau de fromage frais. Je t'en prendrai deux belles louches. » L'épicier s'exécute en plongeant dans l'amphore pleine, sa louche qui aussitôt déborde de miel. Mais au moment de remplir le pot d'argile, une goutte ronde, petite, infime, ridicule, tombe dans la poussière du plancher. Pas de quoi voler une mouche? Eh bien si, une de ces bougresses ailées, noires, velues, ailées, errait sur le carreau des fenêtres. Elle voit la chose, plonge tout droit en piqué d'astrales comètes sous la moustache du chat. Elle se jette sur cette goutte, perle de lumière entrevue. À pleine patte, elle s'emmielle. En surgissant de sa cachette, le chat lui bondit dessus et l'écrase vigoureusement dans un miaulement de victoire. Le chien du berger, voyant Matou, grogne, bave, rue aux abois, se jette sur la pelisse du chat. Dans une valse de dos rond, Molosse attrape le minou, le mord à pleine gueule, et d'un coup de croc sans pitié, il tue le pauvre Minet. Le marchand crie, pleure son chat, en rage. Sale bâtard! fracasse le crâne du kleps d'un coup de louche bien trempé. Le chien ne se relève pas, étendu là de tout son long. Le berger hurle enfin à son tour et saisit l'épicier au col. « Mon chien, mon compagnon, mon fidèle, attends un peu, gros assassin !» Il lève très haut le poing. Son bâton retombe aussi sec sur la tête du boutiquier qui s'affale sur le cadavre du chien, affalé sur celui du chat, cachant la mouche dans le miel. À ce vacarme, les villageois accourent. On se saisit du berger, tout penaud devant le scandale. Venir tuer chez lui un honnête marchand. Quelle honte ! On le traîne dans la ruelle, on l'insulte, on le roue de coups, on le tue. Bon débarras. La nouvelle de sa mort se répand comme une traînée de poudre jusqu'au village voisin. Les habitants de Tsarkachen, armés de pierres, de pelles, de fourches, de piques et de pioches, lancent une furieuse riposte. La nuit tombée, ils se glissent dans les chaumières d'Ashtarak. Ils frappent les villageois dans leur lit. On saccage, on pille, on crie vengeance, enfin on brûle tout. Carnage. Les autres, ceux d'Ashtarak, rendent l'appareil au nom de la justice divine. Au matin, il ne reste plus des deux villages que tas de cendres fumantes, larmes et rivières de sang. Dans la région, on se rassemble pour l'honneur et la liberté, et c'est la guerre dans le pays qui éclate sans s'arrêter. Il y a des morts, des morts, des morts encore. Et toujours aujourd'hui, ceux qui par miracle ont survécu à ce massacre se demandent par quelle étrangeté soudaine tout ce chaos a commencé.
Quessalis et le loup. Sur la côte sauvage du nord du Canada, Quessalis chassait seul. Ciel étroit, mer figée, il suivait la côte enneigée. Il marchait d'un pas souple, détendu. Son souffle s'accordait au battement de son cœur, au battement de son monde. Soudain, sur le chemin, il aperçoit une ombre longue, un loup. C'est un loup au pelage raide, glacé, aux yeux fiévreux. Le fauve a un cercle de neige rougi autour de la gueule. Quessalis s'approche lentement. La bête grogne. Quessalis constate que le loup a un éclat d'os de daim planté dans la mâchoire. Alors Quessalis recule de quelques pas et il se met à chanter de sa belle voix de cuivre, chaude et tranquille. « Oh, oh, Watané, oh, oh, Watané, oh, oh, Watané, eyo kena, eyo kena, oh, oh, Watané, oh, oh, Watané, oh, oh, Watané, eyo kena, eyo kena. » Sa litanie dessine dans l'air dense des volutes qui inlassablement vont du chasseur au loup, du loup au chasseur, tissant entre eux un lien impalpable. Sur ce fil tendu, il fait glisser ses mots qui deviennent chairs pour que l'animal puisse goûter, qui deviennent gestes pour que l'animal puisse frémir, qui deviennent vie pour que l'animal puisse flairer. Lorsqu'il sent que l'animal est en confiance, il glisse doucement sa main entre les mâchoires du loup et retire l'éclat d'os de daim. « Grand frère, ton mal est parti. » Le loup se redresse, tourne dans la neige, part au petit trot et disparaît dans l'immense forêt canadienne. Quelques mois plus tard, une terrible épidémie s'abat sur le campement où vit Quessalis. On a mis à part, dans une tente, les malades. Ils sont là avec leur teint gris, leurs traits tirés, leur chair rongée. Quessalis est parmi eux, et il est là sur son petit lit de fer à trembler. Il a mal partout. Il a tellement mal qu'il appelle la mort. C'est alors qu'un hurlement lui répond de la forêt la plus proche. Bientôt ils sont là à son chevet, deux grands loups blancs du nord du Canada. Le plus grand lui lave le visage à grands coups de langue. L'autre lui lèche l'épaule, le bras, le creux de la main. Le chasseur s'abandonne à ses caresses et perd conscience. Lorsqu'il se réveille le lendemain matin, les loups ont disparu. Lui, il est épuisé, mais il n'a plus la moindre trace de souffrance. Le lendemain, il se remet debout et va marcher dans la campagne. Ah, simplement marcher au soleil. Quelle joie! Quelque temps plus tard, une nuit, un chaman des temps anciens portant veste de daim et bonnet en fourrure de bison s'adresse au chasseur et lui dit « Quessalis, désormais tu sauras guérir et retrouver les âmes. » Depuis ce jour, Quessalis est devenu le plus célèbre chaman de toute la côte nord-ouest du Canada. Henri le berger. Henri est berger en haute montagne. Il aime son métier. Il aime protéger les brebis et puis regarder le soleil se lever et se coucher le soir. Ce jour-là, Henri descend au village. Il rencontre le curé. Alors le curé lui dit « Henri, dis donc, on te voit pas souvent à la messe. Hein. Et alors, pour te confesser, encore moins souvent. » Henri lui répond en souriant. « Écoute, Henri, si tu veux, jeudi, j'ai une place au confessionnal. »« Bien, dit Henri, je viendrai. » Le jeudi, Henri se présente à la porte de l'église. Et le curé, avant d'entrer, lui demande « J'ai une question à te poser, Henri. Le matin, quand tu vois le soleil se lever, est-ce que tu récites ton Notre Père ?»« Mais non, d'ailleurs, je ne me souviens même pas du début. Non, quand je vois le soleil se lever, je cours dans la prairie, je fais des pirouettes et je chante. » Le curé lui répond « Mais tu n'es qu'un païen. » Alors, ils rentrent tous les deux dans l'église et le curé observe Henri qui est un peu embarrassé avec sa lourde veste de berger. Il ne sait pas où la poser. Alors, goguenard et ironique, le curé lui dit « Je vois que tu es embarrassé avec ta veste. Tu pourrais demander à ton copain le soleil de la porter. » « Pourquoi pas ?» répond Henri. Henri suspend sa veste sur le rayon de soleil. « Et mes amis, que croyez-vous qu'il soit arrivé ? La veste est-elle tombée par gravité ? Une petite voix au fond de vous-même vous dit autre chose. Non, la veste est restée suspendue au rayon de soleil. »